Voilà pour le journal. Je cède maintenant la place à Michael Ponge pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 9h10 à Asunción. Un scénario digne des films, le procureur antidrogue du Paraguay tué sur une plage colombienne au beau milieu de sa lune de miel. Des témoignages de plus en plus glaçants et un nouveau bilan en Haïti après les affrontements entre gangs au nord-est de Port-au-Prince. Et puis c'était une autre époque, celle des Duvaliers. Radio Haïti entrait en lutte contre la dictature. L'artiste américaine d'origine haïtienne Leila Makala chante la résistance de ce média dans son nouveau disque. Elle est notre invitée. Ce sera juste avant le journal de la première et à la une, Alex l'éveiller avec vous, le plan régional de formation à l'autisme en Guyane.
Oui, une formation qui devrait permettre aux unités de diagnostic de se réorganiser. Et puis nous irons aussi en Guadeloupe, pardon, en Martinique, où la crise sanitaire fait exploser les besoins des plus précaires.
Rendez-vous dans 15 minutes, Alex, et bienvenue à tous.
De Paraguay especializado en la lucha contra el narcotráfico, Marcelo Pecci fue asesinado mientras estaba con
le procureur antidrogue du Paraguay assassiné en pleine lune de miel hier matin sur une plage de Colombie. C'est partout à la une des médias comme ici sur CNN en espagnol.
En el sur de Cartagena tras su boda.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
À la une aussi bien sûr de la presse du Paraguay et de la Colombie.
Oui, la mafia nous tue, c'est le titre qui s'affiche en lettres rouges sur la une d'Ultima Hora. Tout laisse à penser que le meurtre de Marcelo Pecci a été commandité au Paraguay. Il était en lune de miel, vous le disiez, sur cette plage privée de l'île de Barú, près de Carthagène. Quelques minutes après avoir annoncé sur Instagram que le couple attendait un enfant, le procureur a donc été abattu par deux hommes armés arrivés par la mer par jet ski. Jusqu'à présent, aucun n'a été arrêté, mais une photo présumée de l'un d'entre eux a été diffusée par la police qui a quadruplé la récompense pour toute aide permettant de les localiser, note Ultima Hora. Le chef de la police colombienne, le général Jorge Luis Vargas, l'a confirmé lors d'une conférence de presse.
Le gouvernement national, par l'intermédiaire de la police nationale, offre une récompense allant jusqu'à 2 milliards de pesos, soit environ 488 000 dollars, pour localiser et identifier les auteurs du meurtre. Les instructions du président Duque sont claires. Nous utiliserons toutes les capacités du bureau du procureur général et de la police nationale pour retrouver les responsables du meurtre en Colombie. Mais nous allons aussi traquer les commanditaires partout dans le monde.
Une enquête à l'envergure internationale, on l'entend, donc à laquelle Marie participe les États-Unis. Le procureur Pecci étant spécialisé dans le crime organisé.
Oui, il avait une expérience reconnue dans les unités de lutte contre le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique Ultima Hora. Il avait participé à des saisies de cargaisons de cocaïne sur le sol paraguayen et surtout, poursuit l'Expectador en Colombie, à l'une des enquêtes les plus médiatisées de ces derniers mois. Elle a abouti à plus de 40 arrestations ainsi qu'à la saisie de propriétés de véhicules d'une structure criminelle dont les tentacules, apprend-on, s'étendaient apparemment jusqu'en Colombie.
La Colombie qui reste le principal pays producteur et exportateur de cocaïne dans le monde, mais le Paraguay est lui-même de plus en plus concerné par ce trafic. Écoutez Carlos Anibal Pérez, spécialiste du trafic de drogue à l'Université catholique d'Asunción.
Auparavant, le Paraguay produisait de la marijuana et la cocaïne ne faisait que traverser le territoire. Mais cela fait déjà longtemps que le Paraguay est devenu un pays où la cocaïne est produite, dans des laboratoires clandestins, principalement dans la région du Chaco, dans l'ouest. Ce qui crée plus de bénéfices, attire plus de groupes qui se disputent le trafic de drogue et provoque davantage de violence. Nous avons plus d'hommes politiques qui trempent dans le narcotrafic. Cela devient de plus en plus complexe. Les députés eux-mêmes s'accusent mutuellement de liens avec le narcotrafic. Comment en est-on arrivé là? Notre conclusion, c'est que la nouvelle loi électorale impose des élections nominales. On ne passe plus par des listes. Dorénavant, chaque candidat doit rassembler une quantité minimum de votes pour obtenir un poste ou être élu au Congrès. Et c'est là qu'apparaissent les liens avec les narcotrafiquants qui financent leur campagne pour qu'ils puissent obtenir les votes nécessaires.
Des propos recueillis par Angélica Pérez. Marie, l'épouse du procureur assassiné, soutient en tout cas qu'il n'avait reçu aucune menace.
Oui, elle le dit dans une interview donnée au journal colombien El Tiempo. Pas de menace, pas de sécurité rapprochée en Colombie, d'autant d'autant plus qu'il s'agissait, on l'a compris, d'un voyage privé. L'ambassadrice du Paraguay en Colombie dit qu'elle n'était pas au courant de sa présence dans le pays. La plage privée, ajoute-t-elle, n'était accessible que par l'entrée gardée de l'hôtel ou bien par l'eau, c'est ce qu'ont choisi les assassins. Une forme de meurtre d'ailleurs inédite en Colombie, précise El Espectador. Dans La Nación, la vice-présidente de l'Association des procureurs du Paraguay dénonce, elle, le manque de budget du ministère public qui l'empêche de disposer de ressources suffisantes pour assurer sa propre sécurité. Elle pointe du doigt directement le Congrès pour ses coupes budgétaires.
9h40 à Asunción, comme à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Au nord-est de la capitale haïtienne, la plaine du cul-de-sac, où règne depuis quelques jours un calme précaire. Après les affrontements meurtriers entre les gangs de chiens méchants et celui des 400 marozos qui tentaient de reprendre le contrôle de cette vaste zone fin avril, début mai. En fin de semaine dernière, l'ONU faisait état d'au moins 75 personnes tuées. Mais voilà que sur place, en Haïti, le RNDDH avance un nouveau bilan encore plus élevé et toujours provisoire, Amélie Baron.
Un massacre d'une cruauté inouïe. C'est ainsi que le Réseau national de défense des droits humains qualifie la guerre que deux gangs se sont livrés en périphérie de la capitale. Au moins 148 personnes ont été tuées en l'espace de seulement 13 jours, du 24 avril au 6 mai. La violence et la cruauté des crimes commis par les bandes armées sont extrêmes. Tués par balles ou à l'arme blanche, certains habitants des quartiers du nord de Port-au-Prince ont été brûlés vifs dans leur maison ou en pleine rue avec des pneumatiques. Dans son rapport, réalisé après une enquête de terrain et près d'une centaine d'entretiens, l'organisation rapporte l'existence d'une fosse commune où l'une des deux bandes armées aurait enterré 30 cadavres car les corps laissés en pleine rue sous le soleil entraient en décomposition. Des membres de gangs ont par ailleurs jeté les dépouilles de certaines de leurs victimes dans des puits ou des latrines. Et le RNDDH précise que la plupart des femmes et filles assassinées avaient été violées avant leur mort. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Et le quotidien Le Nouvelliste y consacre, Marie, son éditorial du jour.
Oui, en rappelant qu'il y a presque 4 ans déjà, la population de La Saline avait connu l'enfer. Des hommes, des femmes, des enfants en bas âge étaient sauvagement tués. Les organisations de défense des droits humains, locales et internationales, avaient dû insister pour que les autorités d'alors acceptent d'admettre que quelque chose de grave, voire de très grave, s'était passé. Mais aujourd'hui, les auteurs et les commanditaires de ces crimes vaquent encore en toute quiétude à leurs activités, poursuit Le Nouvelliste, et la plaine du cul-de-sac compte des dizaines de morts presque dans les mêmes conditions dans un pays où l'impunité est la norme. Le pays attend encore le message de sympathie d'ailleurs du Premier ministre Ariel Henry aux proches des victimes, ce qu'il avait pourtant déjà fait très rapidement pour les victimes de l'explosion à Cuba. Le journal note aussi le contraste entre ce rapport de cette ONG haïtienne et le satisfecit que s'était donné le chef de la police nationale d'Haïti la veille.
Et je précise, puisque vous le mentionniez au sujet de cette explosion dans un hôtel de la Havane à Cuba, un nouveau bilan publié hier soir fait état de 43 morts. Marie, on part aux États-Unis où l'ex-président du Honduras, Juan Orlando Hernández, était au retour devant un tribunal de New York hier poursuivi pour trafic de drogue. Il plaide non coupable.
Oui, un non coupable prononcé de façon hésitante et nerveuse, estime El Heraldo, à l'issue d'une audience de seulement 33 minutes. Le procès en lui-même, il débutera le 28 septembre et pourrait durer jusqu'à un an, indique le journal. L'avocat de Juan Orlando Hernández assure qu'il entend faire comparaître comme témoin Donald Trump et Joe Biden, qui avaient, dans le passé, assure-t-il, loué la lutte de Juan Orlando Hernández contre le trafic de drogue. De nombreux Honduriens s'étaient rassemblés devant le tribunal hier, raconte La Prensa, pour demander la prison à perpétuité contre l'ancien président. En parallèle, l'ancien chef de la police du Honduras, Juan Carlos Bonilla, surnommé le Tigre, a lui aussi été extradé vers les États-Unis, accusé aussi d'avoir joué un rôle dans ce vaste trafic de drogue.
Enfin, Marie, on termine ensemble avec une star, bien malgré elle, l'histoire de ce petit rorqual perdu dans les eaux douces du fleuve Saint-Laurent à Montréal depuis le week-end dernier. On se presse pour le voir. Il a même été filmé par les équipes de TVA Nouvelles.
Il semble avoir fait le tour de l'île parce qu'il s'est vraiment déplacé. En face de nous, là, c'est le vieux port de Montréal. Donc, il est vraiment près de la rive également. Il nage à contre-courant, semble faire du surplace. Hier, les spécialistes disaient avoir pu l'observer, qu'il était en bonne condition physique. Mais évidemment, pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle, Michel, qu'ils soient toujours dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Montréal. C'est un beau spectacle à voir, mais un spectacle triste à la fois, Michel, parce qu'il n'est pas là où il devrait être.
Oui, Michel, pas à sa place, hein, Marie, ce rorqual.
Et oui, lorsque le réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins l'a aperçu hier matin, c'était plutôt la déception, comme l'écrit le journal La Presse. Les bénévoles espèrent que ce petit rorqual rebroussera chemin et retrouvera son habitat naturel. C'est à plus de 400 km de là. Plus longtemps il demeure en eau douce, plus ses chances de survie diminuent, résume le journal de Montréal, car normalement le rorqual vit dans l'eau salée qui le protège des algues, notamment la couleur de sa peau pourrait devenir de plus en plus brune au fur et à mesure qu'une colonie d'algues s'installera sur son dos, ce qui peut créer des infections aussi. Et puis l'autre risque, Michael, c'est la collision avec un bateau, car on est là près du port le plus important de l'Est du Canada. Pas possible de l'aider, en tout cas il doit partir seul, notamment parce qu'il n'existe pas, comme l'indique La Presse, de technique pour repousser aussi loin un animal marin de cette taille.
Deuxième plus grand animal vivant sur Terre après la baleine bleue, le rorqual. Merci beaucoup Marie.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et une voix maintenant dans notre rendez-vous. Vous la connaissez peut-être cette voix, celle de Leila Makkala, chanteuse américaine d'origine haïtienne, multi-instrumentiste. Elle vient de sortir son quatrième album, Breaking the Thermometer, Casser le thermomètre, un disque engagé qui revient sur l'héritage et le combat de Radio Haïti, arme de résistance culturelle et politique sous la dictature des Duvaliers. Edmond Sadakala joint la Nouvelle-Orléans où elle réside et elle lui a expliqué comment est né cet album concept entre chansons et documents d'archives.
J'ai été chargée de créer un spectacle à partir des archives de Radio Haïti. Ce travail était une commande de l'université Duke en Caroline du Nord. Cette université avait acquis les archives complètes de cette radio en 2016 et ce travail m'a permis de connaître de beaucoup plus près l'histoire de mon pays. Le spectacle que j'ai créé comprenait de la danse, de la vidéo et de la musique, bien sûr, que j'ai entièrement composée. Ce disque, c'est un peu le résultat de la bande-son de ce spectacle. As a soundtrack to the performance.
Représente Radio Haïti, Leila Makkala, elle a beaucoup compté dans l'histoire du pays.
Radio Haïti a été innovante à plusieurs titres. C'était surtout la première radio du pays à émettre en créole haïtien. Ça a permis de légitimer cette langue et donc de s'adresser à beaucoup plus de monde, pas seulement aux classes aisées comme le faisaient les médias qui émettaient en français. Les journalistes de Radio Haïti ont travaillé sous le régime Duvalier dans des conditions extrêmement dures. Ils ont cependant trouvé le moyen de parler des droits de l'homme et des révolutions qui se déroulaient dans d'autres pays. Ces révolutions auraient été bien nécessaires chez nous pour déloger la dictature. Ces journalistes ont fait preuve de beaucoup de courage et ils mettaient leur vie en danger pour faire émerger la vérité. L'héritage qu'ils ont laissé est incroyable. They leave behind an incredible legacy. C'est nous qui boulanger.
Le titre de l'album signifie « Casser le thermomètre ». Pourquoi ce titre ?
C'est Jean-Dominique, le fondateur de Radio Haïti, qui a souvent prononcé cette phrase pour dénoncer la manière dont les autorités traitaient la presse indépendante. Jean-Dominique a mené un long combat contre la censure gouvernementale. Il a été assassiné en l'an 2000. Cette phrase, selon moi, peut être appliquée à bien des situations dans le monde. Elle est poignante et représente bien la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés en Haïti. Vini we, so le leve, vini we, so le leve, vini we, so le leve.
Sur ce disque, vous reprenez une chanson du Brésilien Caetano Veloso, la chanson « You Don't Know Me ». Qu'est-ce qui vous a touché dans ce titre ?
Beaucoup de journalistes de Radio Haïti se sont exilés durant les années 80 et 90 en raison des bouleversements politiques. Leur sécurité n'était pas assurée durant ces périodes. Ils étaient la cible du pouvoir. La chanson de Caetano Veloso a été écrite pendant son exil hors du Brésil dans les années 70 et les mots qu'il utilise résonnent parfaitement avec ce que peuvent ressentir les journalistes haïtiens obligés de s'exiler. C'était important pour moi d'établir ces connexions.
This painful history.
You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me.
Breaking the Thermometer de Leila Makkala, ce nouvel album, elle était avec Edmond Sadaka.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous et c'est avec vous Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour Mickaël.
À la une, le plan régional de formation autisme qui se poursuit en Guyane.
Oui, organisé par l'ARS et le centre de ressources autisme, les cellules et unités de diagnostic vont pouvoir se réorganiser. Le reportage de Mélodie Nourry de Guyane la première.
C'est un univers encore trop mal connu en France, celui des autistes, même pour des professionnels de santé aguerris. Cette formation a donc pour objectif de donner aux participants les bonnes clés qui leur permettront de mieux appréhender ce trouble. Mirta Barbeski est psychologue et formatrice.
Ce qu'on fait, c'est parler des signes cliniques, des classifications, mais aussi du fonctionnement spécifique, ce qui va aider à savoir quand est-ce qu'on est devant un jeune qui présente un TSA ou pas.
Psychothérapeute, pédiatre ou encore pédopsychiatre, au total, une vingtaine de professionnels du territoire et issus du médical ou du paramédical participent à la deuxième session de cette formation spécifique. Amina Fléré, orthophoniste à l'hôpital de jour de Cayenne, en fait partie.
Ça nous permet de remettre à jour tout ce qui est théorie et évolution scientifique concernant l'autisme, mais aussi permet d'accompagner les familles et ses patients.
Olivia Ancien, elle, est psychomotricienne au centre d'accueil médico-social précoce de Kourou. Cette formation est un véritable atout pour sa structure.
Il y a eu des personnes qui ont été formés il y a quelques années, comme il y a beaucoup de gens qui partent et qui reviennent de Guyane. Donc nous, on va faire le diagnostic sur les 0 à 6 ans.
Selon le centre ressources autisme, les signes sont identifiables avant l'âge de 3 ans, mais le diagnostic n'est fiable qu'à partir de 2 ans. Il est surtout possible de le réaliser tout au long de la vie.
Mélodie Nourry de Guyane, la première, et ce coup de filet dans le milieu de l'orpaillage illégal en Guyane. Une filière a été démantelée, 17 personnes ont été interpellées. Direction la Martinique où le Covid-19 repart à la hausse, une augmentation de 17% des nouveaux cas en une semaine. On compte 3000 personnes contaminées, domiciliées. Quant au nombre d'hospitalisations, il reste stable. Et avec la crise sanitaire, plus l'augmentation du coût de la vie, les besoins des plus précaires ont explosé. C'est le constat de la présidente des épiceries sociales et solidaires de Martinique, Jocelyne Lorne.
C'est vrai qu'au niveau des épiceries, nous avons une augmentation de nos bénéficiaires. Et c'est vraiment flagrant. On a ouvert notre épicerie en 2019 et c'est vrai qu'en 2020, il y avait une augmentation, mais en 2021, ça a été une augmentation de plus de 40 familles. Et là, déjà, en avril de cette année, par rapport à avril de l'année dernière, on a déjà une augmentation de pratiquement 50 familles.
Jocelyne Lorne, présidente des épiceries sociales et solidaires de Martinique, était au micro d'Audrey Gauvindin de Martinique, la première. Et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci beaucoup Alex Léveillé, à vous et aux équipes de la première. Merci à Claude Battista qui est à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques que vous pouvez retrouver, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur RFI Pure Radio, l'actualité des Amériques et d'Haïti à suivre également sur notre compte @RFIAmérique. Sur Twitter et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes.
RFI, les voix du monde.